Jean-Henri Merle d'Aubigné, Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Tome 1, Livre 1, Genève et les premiers Huguenots. Chapitre 3. Un évêque envoyé par le pape pour enlever à Genève son indépendance. 1513. Mort de l'évêque. Agitation du pape. Discours des citoyens. De Beaumont, acclamé évêque par le pape. Deux systèmes d'élection. Le duc et le bâtard de Savoie. Accord entre ces deux princes. Union avec la Savoie, ambitionnée par le pape. Le marché conclu à Rome. Les Suisses sont éconduits. Murmure des Genevois. Les serviles cèdent, les libres protestent. Entrée de l'évêque-prince dans Genève. Il prête serment pour le violer. Il veut gagner Berthelier et l'abbé de Beaumont. Bals et banquets pour efféminer la jeunesse. Les Savoyards à Genève. Un jeune débauché. Immoralité. Il y avait le 13 avril 1513 une grande agitation dans Genève. On traînait des canons dans les rues, on les mettait sur les murailles, on fermait les portes de la ville, on plaçait partout des sentinelles. Charles de Sicel, évêque et prince de Genève, homme d'une humeur douce et honnête, fort bon personnage, dit un chroniqueur, et par exception, grand champion de la liberté, tant ecclésiastique que séculière, venait de mourir, en retournant d'un pèlerinage. Le duc Charles de Savoie, moins amateur de liberté que ce bon prélat, avait eu récemment avec lui de vives altercations. « C'est moi qui vous ai fait évêque », lui avait dit avec arrogance le duc irrité. « Mais je vous déferai et vous rendrai le plus pauvre prêtre de tout le diocèse. » Le crime de l'évêque était d'avoir voulu protéger les libertés de la ville contre les usurpations de Charles. Ce prince tint sa parole et le fit même empoisonner, si l'on en doit croire d'anciennes annales. Quand la nouvelle de cette mort tragique, inattendue, arriva dans Genève, tous les citoyens furent effrayés. Ils se dirent que, sans aucun doute, l'intention secrète du duc était de placer sur le siège épiscopal un membre de sa famille afin d'obtenir ainsi la suzeraineté de la ville. Les bourgeois émus formaient des groupes dans les rues et des orateurs passionnés, parmi lesquels on distinguait Philibert Berthelier, haranguaient le peuple. La maison, dont ce grand citoyen était issu, paraît avoir été de haute chevalerie dès le milieu du XIIe siècle. Mais il était de ces nobles natures qui cherchent la gloire en se mettant au service des plus petits. Nul ne semblait plus propre que lui à sauver Genève. Juste, généreux, fier, décidé, il était surtout ferme, fidèle, attaché au droit. Sa glorieuse ambition n'était pas révolutionnaire. Il voulait maintenir le droit et non le combattre. Le but qui se proposait, ce n'était pas proprement l'émancipation de sa patrie, mais sa restauration dans ses franchises et ses libertés. Il n'affectait pas de grands airs, n'employait pas de grands mots. Il aimait le plaisir, les conversations bruyantes des compagnons, mais on retrouvait toujours en lui une pensée sérieuse, une grande énergie, une puissante volonté et surtout un suprême dédain de la vie. Épris des antiques libertés, il était toujours prêt à s'immoler pour elles. Ouverture de guillemets. Le duc, disait Berthelier et ses amis, dans leurs conférences animées, a eu aussitôt nouvelle de la mort de l'évêque comme aussi le pape. Les postes courent et chacun veut avoir sa part en la peau de cette bête morte. Fermeture de guillemets. Puis il représentait que si le pape avait dès longtemps mis la main sur l'Église, le duc de Savoie voulait maintenant la mettre sur l'État. Genève n'était pas la première cité où de pareilles usurpations se seraient vues. D'autres villes du royaume de Bourgogne, Grenoble, Gap, Valence, Die, Lyon, étaient tombées l'une après l'autre sous un pouvoir étranger. Ouverture de guillemets. Nous-mêmes, disaient ces bourgeois dans le langage énergique et un peu familier de leur époque, nous avons déjà les ailes si couronnées qu'à grand-peine pourrions-nous cracher hors de nos murs sans que notre crachat tombât sur le duc. Ayant commencé sa conquête, il veut maintenant l'achever. Il a mis le groin dans la ville et va s'appliquer à y entrer tout le corps. Résistons-lui. Est-il un peuple dont les franchises soient plus antiques que les nôtres? Nous avons toujours été libres, et il n'est mémoire d'homme du contraire. Fermeture de guillemets. Les citoyens étaient donc décidés à fermer leur porte à l'influence de la Savoie et à élire eux-mêmes leur évêque. Ils rappelaient que quand Ardutius, descendant de son nid d'aigle suspendu au rocher du Môle, fut nommé évêque de Genève, ce fut par l'accord du clergé et du peuple. « Messieurs les chanoines, disait-on, allons, choisissez-nous un prélat qui ne permette pas au duc de mettre le museau dans sa soupe. » Cette expression un peu vulgaire veut dire sans doute « choisissez un évêque qui défende nos libertés ». Ils ne cherchèrent pas longtemps. Il y avait parmi les chanoines de Genève un homme de noble maison ayant bonne alliance au pays des Suisses, Aimé de Gingin, abbé de Bonmont et doyen du chapitre. Son père, Jacques, seigneur de Gingin, de Divonne et autres lieux, avait été conseiller, chambellan, grand maître d'hôtel du duc de Savoie, et même son ambassadeur auprès du pape Paul II. Aimé, qui, très jeune encore, était devenu chanoine de Saint-Pierre de Genève, avait alors 48 ans, et était, ouverture de guillemets, le meilleur compagnon du monde, tenant table ouverte, bien banquetant les amis du plaisir, fermeture de guillemets, aimant à entendre rire et chanter autour de lui, ayant même des mœurs assez libres, selon la coutume de l'Église. Mais il s'en excusait en riant et disait, ouverture de guillemets, sans honte ni vergogne, c'est un péché qui glisse, fermeture de guillemets. Monsieur de Bonmont était à Genève le plus considéré des prêtres, et tandis que ses collègues étaient de cœur et d'âme dévoués à la maison de Savoie, le doyen tenait pour Genève et n'était pas étranger aux nobles aspirations qui portaient tant d'esprits généreux à se tourner vers d'antiques libertés. Le peuple l'acclamait évêque, le chapitre le nomma, et aussitôt les citoyens mirent tout en œuvre pour assurer cette élection. Ils demandèrent au canton suisse de l'appuyer auprès du pape, et eux-mêmes ils envoyèrent à Rome en poste lettres et députés. Si cette élection du chapitre avait été maintenue, il est probable que M. de Gingin aurait eu de bons rapports avec le conseil et les citoyens, et que la concorde aurait été maintenue. Mais la nomination des évêques, qui avait appartenu anciennement au clergé et au peuple, avait passé presque partout aux princes et aux papes. À l'élection du supérieur par les subordonnés avait succédé la désignation de l'inférieur par le supérieur. Ceci était fâcheux. Rien n'assure une bonne élection comme le premier de ces deux systèmes, car l'intérêt et l'honneur des gouvernés est toujours d'avoir de bons gouvernants. Au contraire, les princes ou les papes choisissaient en général des étrangers, des favoris qui ne gagnaient ni l'affection, ni l'estime de leurs ouailles et de leurs prêtres. Les dernières élections épiscopales de Genève, en séparant l'épiscopat du peuple et du clergé, enlevèrent à l'Église la force qui lui était si nécessaire alors, et facilitèrent la réformation. Le duc Charles comprenait l'importance du moment. Ce prince qui occupa durant un demi-siècle le trône de Savoie et du Piémont fut pendant toute sa vie l'impitoyable ennemi de Genève. Faible mais irritable, impatient de toute contrariété mais indécis, orgueilleux, maladroit, arbitraire, aimant la pompe mais sans grandeur, plein de raideur mais sans fermeté, ne sachant pas affronter les puissants, mais toujours prêt à se venger des petits, il n'eut qu'une passion, ou plutôt une manie, prendre Genève. Il lui fallait pour cela un instrument docile, qui prêta la main à ses ambitieux desseins. Un évêque dont il ferait ce qu'il voudrait. Il cherchait donc des yeux qui, il opposerait aux candidats du peuple. Son homme fut bientôt trouvé. Dans toutes les parties de plaisir de la cour, on voyait un petit homme, faible, fluet, mal fait, souffreteux, de mauvaise grâce, vil de corps mais plus vil d'esprit, sot, d'un cœur bas, n'ayant nul égard à son honneur, enclin plutôt à faire le mal qu'à faire le bien, et qui était atteint d'une triste maladie, suite de ses débauches. Ce misérable, appelé Jean, était fils d'une fille d'Angers, communis generis, dit Benivard, qui tenait maison ouverte à tous, prêtres et laïcs, peu libéral de son bien, ouverture de guillemets, elle n'avait pas de quoi, mais qu'il était en plus de ses vénales affections, fermeture de guillemets. François de Savoie, le troisième des petits-fils du pape duc, qui avait successivement occupé le siège épiscopal de Genève, et qui fut aussi archevêque d'Eau et évêque d'Angers, banqueta avec elle comme les autres. Cette femme allait devenir mère, mais elle ne savait, dit le chroniqueur, qui elle devait désigner comme père. L'évêque étant le plus riche de tous ses amants, elle lui attribua l'enfant, qui fut nourri par les amis de son père putatif. Fermeture de guillemets. L'évêque d'Angers, ne se souciant pas d'avoir cet enfant dans son diocèse, l'envoya dans son ancienne ville épiscopale, où il avait des gens qui lui étaient dévoués. Ce pauvre petit garçon malingre fut donc élevé à Genève, et y végéta tristement, jusqu'à ce qu'appelé à la cour de Turin, on lui donna un certain train, 3 chevaux, un serviteur, un chapelain et le titre de bâtard de Savoie. Il commença alors à lever la tête et devint le prêtre le plus avide, le plus intrigant, le plus déréglé de son époque. Ouverture de guillemets. « Voilà l'homme qu'il me faut pour évêque de Genève, » pensa le duc. « Il me doit tant qu'il ne pourra rien me refuser. » Fermeture de guillemets. Il n'y avait marché que le bâtard ne fût prêt à conclure pour gagner quelque argent ou quelque honneur. Livrer Genève au duc était pour lui une facile affaire. Charles le fit appeler. Ouverture de guillemets. « Mon cousin, lui dit-il, je vous avance en évêché si vous me faites en récompense cession de temporalité. » Fermeture de guillemets. Le bâtard promit tout. C'était un moyen inattendu de payer au duc des dettes que celui-ci faisait sonner bien haut. Ouverture de guillemets. « Il nous a vendu, non en fruits, mais en herbes, » disait Bonivard, « car il a fait présent de nous avant que nous fussions à lui. » Fermeture de guillemets. Le duc, sans perdre de temps, fit partir son cousin pour Rome, sous prétexte de complimenter de sa part Léon X, qui venait de succéder à Jules II. Jean le bâtard et ses compagnons voyagèrent si promptement qu'ils arrivèrent avant les Suisses. En même temps, la cour de Turin n'omit rien pour s'assurer la possession d'une ville si longtemps convoitée. D'abord, elle fit travailler tous les cardinaux qu'elle pouvait atteindre. Le 24 février, le cardinal de Saint-Vital. Le 1er mars, le cardinal de Flisco. promirent leur service pour faire donner à Jean de Savoie l'évêché de Genève. Le 20 avril, la reine de Naples écrivit au duc qu'elle avait recommandé Jean au cardinal d'Aragon, son neveu. Ce n'était pas assez. Une circonstance inattendue vint favoriser les desseins de la Savoie. L'illustre Léon X, qui venait d'être porté sur le siège papal, avait formé le dessein d'allier sa famille à l'une des plus antiques maisons de l'Europe. Il jeta à cet effet les yeux sur une princesse qui brillait alors à la cour de Savoie. Jeune fille pure, simple, d'une âme élevée, amie des pauvres, sœur cadette du duc et de Louise de Savoie, Philiberte, tante de François Ier et de Marguerite de Valois. Léon X résolut de demander sa main pour son frère Julien le Magnifique, lieutenant général des armées de l'Église. Julien n'avait pas eu jusqu'alors une vie fort édifiante. Amant passionné d'une veuve d'Urbain, il en avait eu un fils naturel. Pour engager le duc à cette union qui flattait fort les parvenus de Florence, le pape fit beaucoup de promesses, disent les documents italiens. Il envoya même à la cour de Turin un délégué chargé de dire à Charles qu'il pouvait, ouverture de guillemets, attendre de lui tout ce que le meilleur des fils peut espérer du plus tendre des pères, fermeture de guillemets. C'était à Rome que la chose devait se décider, et Léon X y prenait peine. Il recevait avec les plus grands honneurs le bâtard de Savoie. Ce vide et désagréable personnage avait la première place au festin, au théâtre, au concert. Léon se plaisait à causer avec lui et lui faisait raconter les grâces de Philiberte. Quant à le nommer évêque de Genève, cela ne faisait pas la moindre difficulté. Le pape ne se souciait nullement ni de monsieur le doyen de Beaumont, ni du chapitre, ni des Genevois. Ouverture de guillemets. Que le duc nous donne sa sœur, et nous vous donnons Genève, répétait-on au petit souffreteux postulant. Vous abandonnerez ensuite au duc le pouvoir temporel. La cour de Rome ne s'y oppose point. Au contraire, elle vous appuiera. Fermeture de guillemets. Tout fut conclu entre le pape, le duc et le bâtard. Jean de Savoie, dit un manuscrit, jura de remettre au duc la juridiction temporelle de la ville, et le pape jura d'obliger la ville à y consentir pour éviter les foudres du Vatican. Cette affaire était à peine finie qu'arrivèrent les députés suisses chargés de faire confirmer le doyen de Beaumont dans sa qualité d'évêque. Simple, droit, mais beaucoup moins habile que les Romains et les Piémontais, ils se présentèrent au pape. Hélas, ces pâtres des Alpes n'avaient point de princesse à offrir aux Médicis. Nescio vos, leur dit Léon X. Allez, je ne sais qui vous êtes. Il avait ses raisons pour les repousser, car il avait nommé le bâtard de Savoie évêque de Genève. On ne pourrait faire à aucune église une plus grande injure. Pour qu'une autorité, surtout élective, soit légitime, il faut qu'elle soit aux mains du meilleur et du plus intelligent, et que celui qui l'exerce, tout en administrant avec zèle, ne porte point atteinte aux libertés de ceux qu'il gouverne. Mais ce sont là des pensées qui n'abordèrent jamais l'homme vil établi par le pape, premier pasteur de Genève. Il trouva pourtant aussitôt des flatteurs. On lui écrivit, ces lettres sont aux archives de Genève, que son élection avait été faite par le troupeau. Ouverture de guillemets, non par la faveur humaine, mais par le seul aide de Dieu. Fermeture de guillemets. C'était pourtant la faveur de la reine de Naples, de Charles III, et plusieurs autres faveurs fort humaines qu'il avait fait nommer. On l'exhorta à gouverner son Église avec intégrité, justice et diligence. Comme devait l'y porter sa gravité et sa vertu singulière. Le bâtard ne fit pas grand cas de ces exhortations. Son règne ne fut qu'une misérable parodie, un long scandale. Léon X n'avait pas la main heureuse. Par le commerce des indulgences, il allait provoquer la réformation de Wittenberg, et par l'élection du bâtard, il préparait celle de Genève. Ce sont là deux faux pas que Rome a payé cher. La nouvelle de cette élection remplit les cœurs des patriotes genevois de tristesse et d'indignation. Ils se réunissaient sur la place, ils murmuraient, se complaignaient entre eux, et les voix de Berthelier et de Hugues dominaient toutes les autres. Ils représentaient qu'ils n'avaient pas besoin du bâtard, qu'ils avaient déjà un évêque, honoré de Genève et de toutes les ligues, et qui avait tous les droits à l'évêché, puisqu'il était le doyen du chapitre. Ils insinuaient que si Léon X prétendait remplacer l'évêque légitime par cet intrus savoyard, c'était parce que la maison de Savoie voulait s'emparer de Genève. On s'indignait surtout du caractère connu du candidat romain. Ouverture de guillemets. Belle élection, vraiment, que celle dont sa sainteté nous honore, disait-on. Pour évêque, elle nous donne un clerc avili. Pour conducteur dans les sentiers de la vertu, un bâtard débauché. Pour conservateur de nos droits antiques et vénérés, un scélérat prêt à les vendre. Fermeture de guillemets. On ne s'en tenait pas à des murmures. Berthelier et ses amis faisaient remarquer que, puisque du midi venait la tempête, il fallait chercher un abri du côté du nord, que si la Savoie levait le pied sur Genève pour l'écraser, la Suisse tendait la main à Genève pour le sauver. « Soyons maîtres chez nous, disait-on, et fermons la porte au candidat du pape. » Tous ne pensaient pas de même. Les hommes timides, les prêtres serviles, des amis intéressés de la Savoie, tremblaient en entendant ces hardies paroles. Ils croyaient que s'ils repoussaient l'évêque venu de Rome, le pape lancerait contre Genève ses foudres et le duc ses soldats. Les chanoines de la cathédrale et les plus riches marchands avaient leurs terres dans les états de Charles, en sorte que, dit un manuscrit, ce prince pouvait, à volonté, les faire mourir de faim. Ces hommes influents entraînèrent la majorité. On résolut d'accepter l'évêque, élu à Rome. Les chefs du parti indépendant, se voyant vaincus, se décidèrent à réaliser aussitôt le plan qu'ils avaient formé. Le 4 juillet 1513, Philibert Berthelier, Besançon, Hugues, Jean Tacon, Jean Beau, N. Tissot et H. Pollier demandèrent à Fribourg la bourgeoisie pour la préservation de leur corps et de leurs biens. Et ils l'obtinrent. Cette démarche énergique pouvait les perdre. Le duc saurait bien leur donner quelques sanglantes leçons. N'importe. Un grand pas était fait. La nacelle genevoise était attachée au navire qui devait l'emporter dans les eaux de la liberté. Déjà, en 1507, trois patriotes, Pierre Lévrier, Pierre Tacon et De Fonte, s'étaient alliés avec la Suisse. Les voilà donc 9, se rangeant du côté de l'indépendance. C'était bien peu. Pourtant, c'était assez neuf que la victoire devait demeurer. Il y a, l'histoire l'a souvent montré, une autre majorité que la majorité du nombre. Tandis qu'une petite bande de patriotes allait embrasser en Suisse l'autel de la liberté, le parti ducal et clérical s'apprêtait à se prosterner servilement devant le prince savoyard. Plus les patriotes avaient repoussé, plus les épiscopaux s'empressaient à lui faire une réception somptueuse. Le 31 août 1513, le nouveau prince-évêque entra donc dans sa ville sous un dais magnifique. Partout des feuillages, des guirlandes, des tapisseries, des compagnons magnifiquement équipés, des échafaudages, des théâtres improvisés, histoires, drames, jeux, fifres et tambours. En vain, quelques citoyens de mauvaise humeur haussaient-ils les épaules et disaient, en regardant l'évêque, « Vraiment, il est aussi laid de corps que d'esprit. » Les serviles l'encensaient. Quelques-uns s'excusaient humblement de ce qu'ils avaient paru faire quelque résistance. Il représentait que ce n'était pas à la personne de Monseigneur que cette résistance s'adressait, qui désirait simplement maintenir leur droit d'élection. Jean de Savoie, qui s'était dit « Je veux ne pas piquer le cheval avant que d'être bien assuré dessus », répondait simplement par un sourire, du bout de ses lèvres livides. Tous, peuple et évêque, dissimulaient. Arrivé devant la cathédrale, le nouveau prélat y trouva les chanoines, revêtus de leurs habits de damas et de soie, avec capes et croix, chacun à son rang. Ils avaient bien éprouvé quelque mécontentement en voyant leur élu, l'abbé de Bonmont, mis par le pape de côté, sans autre cérémonie. Mais l'honneur d'avoir pour évêque un prince de la famille ducale était une compensation. Ces révérends seigneurs, presque tous partisans de Savoie, s'humilièrent aussitôt devant le bâtard et lui firent, à plusieurs reprises, de profondes salutations. L'évêque entra dans l'église, se tint debout devant l'autel, un missel ouvert devant lui, selon l'usage, et jura solennellement entre les mains des syndics, en présence du peuple, de maintenir les libertés et coutumes de Genève. Certaines bonnes âmes prirent au mot son serment et paraissaient tout à fait rassurées. Mais les plus éclairées avaient l'air incrédules et ne se fiaient guère à cette protestation. L'évêque ayant été reconnu et proclamé souverain, quitta l'église et entra dans son palais épiscopal pour s'y reposer de ses fatigues inaccoutumées. Là, il s'assit au milieu d'un petit cercle de ses courtisans et, levant la tête, il leur dit « Ouverture de guillemets, ça, messieurs, il s'agit maintenant de savoyarder Genève. Voilà assez longtemps que cette ville n'est séparée de la Savoie que par un fossé sans le franchir. Je suis chargé de lui faire faire le soubresaut. » Fermeture de guillemets. Ces paroles furent à peu près les premières que le bâtard prononça, après avoir prêté serment devant Dieu de maintenir l'indépendance de la ville. L'évêque, rusé de sa nature et entouré de conseillers encore plus rusés que lui, tenait à connaître quels étaient les hommes les plus influents du parti qui lui était contraire, décidé à leur donner des marques éclatantes de sa faveur. Il trouva d'abord un nom dont toute la ville était pleine, celui de Philibert Berthelier. L'évêque voyait ce citoyen se montrer avec le peuple, simple, gai, plaisant, plein de cordialité, assister à toutes les fêtes des enfants de Genève, les gagner par les grâces animées de ses manières, et par les services importants qu'il était toujours prêt à leur rendre. « Bon, se dit Jean de Savoie, voilà un homme qu'il me faut avoir. Si je le gagne, mon pouvoir dans Genève n'aura rien à craindre. » Il résolut de lui donner l'une des fonctions les plus honorables dont il pouvait disposer. Quelques personnes cherchèrent à l'éclairer, à lui dire que Berthelier, sous ses dehors futiles, cachait une âme rebelle, énergique, inébranlable. « Ne craignez rien, » répondait Jean. « Il chante gaiement et boit avec les jeunes hommes de la ville. » En effet, Berthelier s'amusait avec les enfants de Genève, mais pour les embraser de son feu. Il avait les deux qualités nécessaires aux grandes choses, une âme populaire et un caractère héroïque. Le sens pratique pour agir sur les hommes et l'esprit élevé pour concevoir des idées sublimes. L'évêque, pour lequel toutes les grandes pensées étaient une terre inconnue, parut épris d'amour pour le grand citoyen. Toujours prêt lui-même à se vendre, il ne douta pas que le fier Genevois ne fût à acheter. Un château fort, celui de Penet, bâti au milieu du XIIIe siècle à 2 lieues de la ville par un évêque de Genève, était alors son châtelain. « Je vous donne, dit le prélat à Berthelier, la châtellenie de Penet. » Philibert fut étonné, car c'était, nous l'avons dit, l'une des charges les plus importantes de l'État. Ouverture de guillemets. « Je comprends, dit-il, Penet, c'est la pomme que le serpent donna à Ève. » Ou bien, ajoute Bonivard, la pomme que la discorde Érinice jeta au milieu des noces de Pélée, fermeture de guillemets. Berthelier refusa. Mais le bâtard insista. Il fit les plus belles promesses pour l'avenir de la ville. Le citoyen accepta enfin la charge, mais avec la ferme résolution de s'en dépouiller dès que ses principes l'exigeraient. L'évêque ne pouvait même soupçonner une démission qui serait à ses yeux un acte de folie. Aussi, croyant tenir Berthelier, il pensa que Genève ne lui échapperait pas. Ce n'était pas tout. L'évêque élu, M. de Gingin, dont le bâtard venait prendre la place, avait dans la ville une grande influence. Jean lui fit une bonne pension. Croyant ainsi avoir mis hors de combat 2 principaux adversaires, il en plaisantait avec ses courtisans. « C'est, disaient ceux-ci, un os jeté en leur gueule qui les empêchera d'aboyer. » Ils éclataient de rire et battaient des mains. Il s'agissait maintenant de gagner le peuple. 2 traits caractérisent des Genevois, dirent à l'évêque les partisans de sa voix. L'amour de la liberté et l'amour du plaisir. Les conseillers du prince savoyard en conclurent qu'il fallait manœuvrer de manière à étouffer l'un par l'autre ces 2 besoins de ces nouveaux sujets. Le mot d'ordre fut aussitôt donné. Allons, courage, fêtes, bals et banquets, divertissements à l'évêché, divertissements dans toutes les maisons du parti savoyard. Il y avait pourtant un obstacle. Le bâtard était de sa nature triste et chagrin. Et sa maladie n'amoindrissait pas cette disposition morose. Mais Jean se fit violence. Il se mit à tenir table ouverte. On ne faisait à l'évêché que banqueter, jouer, danser, faire grosse chère. Le prélat, sortant de ses appartements, paraissait au milieu de ses joyeuses fêtes avec son blême et sombre visage et s'efforçait de sourire. On n'entendait partout que le son des instruments ou le choc des verres. La jeunesse de Genève était ravie. Mais les bons citoyens s'alarmaient. Ouverture de guillemets. L'évêque, les gens d'église et les savoyards, disait-il, efféminent, accouardisent nos jeunes gens par des tables friandes, des jeux, des danses et autres désordonnées plaisances. Fermeture de guillemets. Ils ne se contentaient pas de gémir. Ils prenaient à part leurs jeunes concitoyens. Ils leur représentaient que si l'évêque et les siens leur prodiguaient tous les amusements, c'était pour leur faire perdre l'amour de la chose publique. Ouverture de guillemets. Ils font comme Circé avec les compagnons d'Ulysse, disait un homme d'esprit. Et leurs breuvages enchantés n'ont d'autre but que de transformer des hommes en pourceaux. Fermeture de guillemets. Mais le bâtard, les chanoines et les seigneurs savoyards, mettaient encore plus de vin sur leur table et de belles demoiselles dans leurs bals. Les enfants de Genève n'y tenaient pas tant. Ils laissaient les vieillards et leur radoterie. Ils perdaient la tête et se livraient, avec la fougue de leur âge, aux cadences ravissantes, aux harmoniques accords, aux désordres avidissants. Quelques jeunes seigneurs, qui dansaient ou buvaient, leur soufflaient à l'oreille. Que serait-ce si le duc établissait à Genève sa cour et ses fêtes magnifiques? Et ces âmes légères oubliaient les libertés et la mission de leur patrie. Parmi les jeunes gens que les courtisans de Savoie démoralisaient, se trouvait le fils du procureur fiscal de l'évêché. L'une des pratiques des plus habiles des ducs, désireux d'assimiler Genève à leurs états, était d'engager un certain nombre de leurs sujets à s'établir dans cette ville. Ces Savoyards, en général riches et de bonne famille, étaient accueillis avec plaisir et souvent revêtus de quelques charges importantes, mais ils restaient toujours dévoués aux intérêts du coup. De ce nombre était F. Cartelier de la Bresse, M. Guillet, seigneur de Montbard, et Pierre Navis de Rumilly, dans la province du Genevois. Tous les trois jouèrent un rôle important dans la crise que nous devons raconter. Navis, reçu bourgeois en 1486, fait conseiller en 1497, était un homme habile, fier, bon jurisconsulte, entièrement dévoué au duc, et qui croyait devoir le servir aveuglément dans les procès iniques intentés aux patriotes. Le plus jeune de ses fils, André, était un garçon espiègle, folâtre, tapageur, et qui, tout en ayant un certain respect pour son père, se montrait souvent désobéissant et opiniâtre. Quand il passa de l'adolescence à la jeunesse, ses affections acquirent plus de feu, son imagination plus de flamme. Ses sentiments de famille ne lui suffisaient plus. Et il sentait en lui un certain enthousiasme qui le poussait vers quelque chose d'inconnu. La connaissance de Dieu eut satisfait les besoins de cette âme ardente, mais il ne la trouva nulle part. Ce fut alors, il avait 23 ans, que Jean de Savoie arriva à Genève et que ses courtisans tendirent leur filet. La naissance d'André Navis le désignait à leur pratique. Il devait être l'une de leurs premières victimes. En effet, il se jeta dans tous les plaisirs avec la fougue de la jeunesse et la volupté prit la première place dans sa vie. Il descendit rapidement les degrés de l'échelle morale. Bientôt, il se vautra dans la débauche et ne recula pas devant les actes les plus honteux. Sa conscience se réveillait quelquefois. Le respect pour son père prenait le dessus. Mais quelque adroite séduction l'attirait de nouveau dans le mal. Il dépensait dans le désordre son argent et celui de sa famille. « Quand je manque d'argent, disait-il, j'écris au bureau de mon père. Quand j'en ai, je le dépense avec mes amis ou à courir le monde. » Il en fut bientôt aux expédients pour suffire à son libertinage. Un jour, son père ayant une affaire à Chambéry, l'y envoya à cheval. André joua en route, perdit son argent, et voulant se refaire, vendit son cheval. Il fit pis encore. Se trouvant à court, il vola à 2 reprises des chevaux et les vendit. Au reste, il n'était pas le seul libertin dans Genève. L'évêque et ses courtisans en formaient d'autres. Les prêtres et les moines que Jean avait trouvés à Genève donnaient eux-mêmes de grands scandales. Ce furent ces immoralités qui portèrent les citoyens à faire à l'évêque de premières et instantes réclamations.